Comme j'en ai l'habitude, bonjour à ceux que j'ai déjà salués et à ceux que je n'ai pas encore vus. Je me réjouis de vous voir tous ici ce matin. Alors j'aurais pu choisir de prêcher sur « Laissez venir à moi les petits-enfants » en cette matinée spéciale, mais j'ai été interpellée dans les derniers temps, alors que nous lisions et méditions la Bible ensemble avec Hervé, sur la façon dont nous lisons la parole de Dieu. Et dans cette interpellation que je vais partager avec vous, je vais faire comme avec les petits-enfants. Je vais aussi vous raconter des petites histoires. Donc j'espère qu'elles vous plairont et qu'elles vous amèneront surtout à réfléchir. Alors, j'attends que... Voilà. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu ou est-ce que nous la vivons ? Donc, cette méditation s'intitulait « Marathon de lecture ». Elle était basée sur ce verset de Néhémie au chapitre 8, le verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Je pense que vous connaissez cette histoire où le peuple juif a redécouvert la loi du Seigneur. Donc je vous lis cette méditation. Au lever du soleil, le premier jour du septième mois de l'an 744 avant Jésus-Christ, Esdras s'est mis à lire la loi mosaïque, ce que nous connaissons comme étant les cinq premiers livres de la Bible. Se tenant sur une plateforme devant le peuple de Jérusalem, il l'a lu du début à la fin en 6 heures. Vous imaginez là qu'on soit 6 heures en train d'écouter la lecture de la parole de Dieu? Certains seront partis avant la fin, malheureusement. Hommes, femmes, enfants s'étaient réunis à l'entrée de la ville, connue comme la Porte des Eaux, dans le cadre de la fête des trompettes, une des fêtes que Dieu leur avait prescrit d'observer. Tandis qu'ils écoutaient Esdras, 4 réactions se sont démarquées des autres. Ils se sont tenus là, debout, avec respect, à l'égard du livre de la loi. Ils ont loué Dieu en élevant les mains et en disant « Amen ». Ils se sont inclinés dans une attitude d'adoration empreinte d'humilité, puis ils ont écouté attentivement la lecture et l'explication des Écritures qui leur étaient faites. Quel jour extraordinaire que celui où la loi prescrite par l'Éternel à Israël a été lue à voix haute à l'intérieur de la muraille nouvellement reconstruite de Jérusalem. Il se peut que le marathon de lecture d'Esdras nous rappelle que les paroles que Dieu nous adresse vise encore à alimenter nos louanges, notre adoration et notre instruction. En ouvrant la Bible et en y apprenant plus au sujet de Christ, louons Dieu, adorons-le et cherchons à découvrir ce qu'il nous dit maintenant. Donc voilà cette méditation que nous avons lue et vraiment nous nous sommes encore demandé, même après tant d'années de vie aux côtés du Seigneur, comment est-ce que nous lisons la Bible ? Quel impact la lecture de la Bible a sur ma vie, sur notre vie? Pourquoi est-ce que nous la lisons? Comment est-ce que nous la lisons? Que faisons-nous de cette lecture? Et au final, c'était là le point essentiel dans mes réflexions. Quelle est notre disposition de cœur en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que nous la lisons pour avoir une plus grande connaissance? Ou bien est-ce que nous la lisons pour la vivre? Alors je vous propose ce matin de cheminer au fil de ces questions pour nous laisser interpeller et transformer, peut-être, par cette parole. D'abord, pourquoi lisons-nous la Bible? Cette question vous semble sans doute assez curieuse. La réponse est évidente. Nous, chrétiens, nous lisons la Bible parce que c'est la parole de Dieu et nous voulons connaître cette parole. Dieu nous demande de suivre ses instructions, alors il nous faut les connaître. Oui, c'est vrai, ce sont de bonnes raisons. Mais si c'est seulement ça votre réponse, si c'est seulement ça notre réponse, alors quelque part, ça veut aussi dire que nous lisons par obligation, pour répondre à un ordre. Parce qu'il est dit plusieurs fois dans la Bible que nous devons lire la parole de Dieu. Pas parce que c'est notre envie, notre désir le plus cher, ça peut être juste une habitude qu'on a prise. Et ça reste une bonne habitude, mais juste une habitude. Alors que je cherchais des textes pour étayer cette prédication, j'ai été frappée par ces versets. « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Donc c'est Amos, le chapitre 8, les versets 11 et 12. Et là, nous pouvons comprendre que Dieu ne veut pas de notre part juste une réponse à ce que lui souhaite pour nous. Il s'attend à ce que pour nous, cette lecture soit aussi essentielle, indispensable, que le manger et le boire. Chaque jour, nous prenons nos repas, nous nous hydratons. C'est essentiel pour notre survie. Est-ce que vous connaissez cette réplique de l'avare que Molière a empruntée à Socrate ? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, il faut lire la Bible pour pouvoir vivre en Christ. C'est là notre nourriture spirituelle que nous ne prenons pas par obligation en absorbant des plats indigestes juste parce qu'il faut, mais savourant chaque miette parce qu'elle nous apporte tellement de délices. Alors voilà ce qui concerne le « pourquoi lisons-nous la Bible ?» Mais comment la lisons-nous ? Pour comprendre de quelle façon ce comment est important, je vous propose de reprendre les tirades d'Harpagon et de Valère dans l'Avare de Molière, en lisant un peu plus que ce que je vous ai déjà cité. Donc il y a Valère qui déclare au cuisinier « Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. » Que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ce à quoi Harpagon réplique « Ah, que cela est bien dit ! Approche que je t'embrasse pour ce mot ! Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger pour... Non, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis ? » Valère répond « qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » Alors, si je reviens sur ce texte, en plus de l'humour qui est dedans, c'est parce qu'il nous faut aussi considérer parfois notre façon de lire la Bible. Il est bon de lire la Bible en totalité pour en connaître toute la subtilité des saveurs que Dieu nous y propose. Connaître les livres historiques qui nous parlent de la création du monde ou de la façon dont les hommes ont voulu avoir un roi. Connaître les livres poétiques, comme le Cantique des Cantiques ou les Psaumes, qui font du bien à notre âme. Nous permettent de partager les joies et les peines de ceux qui nous ont précédés et ont su bien mieux que nous mettre des mots sur les mots. Connaître les livres prophétiques dont plusieurs prophéties se sont accomplies avec la venue de Jésus-Christ sur terre. Et enfin, connaître le Nouveau Testament et comprendre la pleine révélation du salut apporté par Dieu aux hommes en Jésus-Christ. On pourrait allonger la liste de tous les bons morceaux que recèle la parole de Dieu. Mais plutôt qu'en faire la liste, il est bon que chacun en fasse la découverte. Mais cette découverte ne doit pas non plus se faire n'importe comment. Là, vous voyez que le plat est bien costaud, hein ? Certains vous proposeront de lire la totalité du texte en un an, en deux ans. Le plan de lecture que certains suivent à l'Église permet d'avoir lu toute la Bible en quatre ans. Pourtant, la lecture de la Bible, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas la quantité lue qui compte, mais la qualité de notre lecture. À quoi nous sert-il d'avoir lu plusieurs chapitres d'affilée si nous n'en retenons rien ou si nous n'en comprenons rien ? Mieux vaut se laisser interpeller par une petite portion du texte, être touché, bouleversé, transformé, que de se forcer à lire des pages et des pages sans en tirer aucune saveur. C'est comme si on vivait pour manger sans jamais en tirer aucun bienfait, juste avoir une overdose de nourriture, se rendre malade à en avoir des douleurs abdominales violentes. Non. Mangeons pour vivre et réjouissons-nous des mets délicats que Dieu nous propose. Cela me fait justement penser à une petite histoire. Il y a quelques années, sévissait à Téhéran, en Iran, une crise du papier. Au cours de cette crise, un jeune musulman du nom de Nassi était allé au marché pour acheter du fromage. Le vendeur, qui n'avait pas de papier spécial pour envelopper le fromage, l'a emballé dans une feuille de papier imprimée, ce qui a excité la curiosité de Nassi. Arrivé chez lui, il a sorti avec soin le fromage et s'est mis à dérouler la feuille qui avait été salie. Nassi s'est mis à lire la feuille. Il l'a montrée à son père, qui a soupçonné, à juste titre, qu'il s'agissait d'une page provenant d'une Bible, le livre des chrétiens. Il a mis son fils en garde contre la lecture de cette page ou de toute autre page semblable. Mais le jeune homme était complètement captivé par le message sur lequel il était tombé par hasard. Le jour suivant, Nassi est retourné au marché et est allé voir le même marchand. Aussi discrètement que possible, il s'est renseigné sur la mystérieuse page et on lui a répondu que s'il achetait quelque chose d'autre, il aurait davantage de papier d'emballage à lire. Aussi, le jeune homme a-t-il acheté des figues qui ont aussitôt été enveloppées dans une page imprimée. Le jour suivant, il est retourné. Il a acheté des dattes. Puis, il a encore acheté du fromage. Et ainsi de suite pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il ait en sa possession toute une collection de pages de la Bible qu'il a tenues cachées de son père. Alors, bien sûr, les textes ne se suivaient pas. Donc, il a cherché à se procurer une Bible entière, il a fini par en trouver une en langue farcie. Mais grâce à ces petites pages, prises les unes à la suite des autres, en quelques semaines, il a été amené au Seigneur et a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il n'avait pas lu la Bible en entier, il avait juste lu des parties qui ont vraiment touché son cœur. Alors j'ai bien aimé cette histoire parce que comme je suis partie sur les nourritures terrestres avec l'avare, je trouvais aussi que ça nous montrait qu'il n'y avait pas que la nourriture terrestre qui était importante dans ce cas, mais quelques pages qui ont été la nourriture spirituelle et qui peuvent nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Alors nous de même, laissons-nous interpeller par certains passages que Dieu nous inspire pour comprendre comment nous rapprocher de lui et de la totalité de sa révélation. Non pas pour accomplir des performances, mais pour que notre cœur soit irrémédiablement transformé. Dans le même ordre d'idées, j'étais impressionnée il y a quelque temps par une confidence de mon cher mari. Alors que nous parlions de notre façon de lire la Bible, il m'a expliqué qu'il était en train de lire un des livres, mais j'ai oublié duquel il s'agissait, depuis plusieurs mois. Et c'était étonnant, parce que ce livre n'était pas si long. Et je savais que dans sa jeunesse, Hervé avait lu plusieurs fois la Bible en totalité et assez rapidement à chaque fois. Donc ça ne correspondait pas du tout à son habitude. Je m'étonnais pour cette fois d'une telle lenteur. Et il m'a alors expliqué qu'il s'était senti interpellé à lire ce livre particulier d'une façon particulière. Il relisait chaque jour le même passage tant qu'il n'avait pas saisi tout le message que Dieu voulait lui transmettre. Oui, parfois Dieu nous appelle aussi à déguster sa parole pour arriver à bien la digérer et l'assimiler, pour que nos papilles spirituelles en soient réjouies. Et finalement, que faisons-nous de notre lecture de la Bible ? Si nous savons pourquoi nous lisons et comment nous pouvons le faire, tout l'intérêt de la réflexion, c'est de nous demander comment cette nourriture spirituelle se répand en nous, quelles conséquences elle produit. L'apôtre Jacques nous déclare « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, qu'est-ce que ça produit en nous ? La lecture de ces quelques versets nous permet de réfléchir à plusieurs réponses. D'abord, sur les mauvaises réponses à apporter. Écouter la parole en se trompant par de faux raisonnements. Mais comment est-ce que ça peut se faire ? Je vois au moins deux possibilités. Lire la Bible en cherchant ou en ne retenant que des passages qui nous plaisent, qui nous conviennent, qui correspondent à la réponse que nous voulons avoir de la part de Dieu, par exemple. Nous pouvons avoir cette attitude de façon inconsciente, mais cela peut aussi être notre attitude constante. Nous mettons de côté ce qui ne nous convient pas, faisant même exprès de le gommer de notre mémoire parce que cela nous dérange. Ça ne peut pas arriver ? Souvenez-vous de l'histoire de l'homme riche en Luc, chapitre 18, les versets 18 à 26. Il demande à Jésus ce qu'il doit faire. Jésus lui répond, mais la réponse ne lui convient pas. Il repart triste. Alors ne pensons pas que ça ne peut pas nous arriver si c'est décrit dans la Bible. Oui, cet exemple nous montre que nous pouvons mettre de côté ce que Dieu nous dit dans sa parole parce que ça ne nous convient pas. Une autre sorte de faux raisonnement est aussi de lire des encouragements ou des exhortations de la part de Dieu et de systématiquement penser à un frère ou une sœur qui devrait bien lire ça et le mettre en pratique. Il y a de ces personnes qui voient toujours comment les injections peuvent toujours s'appliquer aux autres, qui considèrent que si tel ou tel lisait ceci ou cela pour le mettre en pratique, l'Église, le monde même, s'en porterait bien mieux. Alors là encore, une petite histoire peut nous aider à y réfléchir. Un enfant terrible ne se calmait que le soir, au moment de faire sa prière. Un soir, un ami des malheureux parents, venu à la maison, l'interrogea. « Sans doute pries-tu Dieu de te rendre plus sage ?»« Non, » répondit l'enfant, « je lui demande de rendre maman plus patiente. » Au fond, c'était qu'un enfant. Mais nous, qui sommes adultes, sommes-nous vraiment plus raisonnables que lui lorsque nous demandons à Dieu de transformer ce qui nous pose des problèmes au lieu de le prier de changer notre cœur ? Nous voudrions que les autres nous supportent tels que nous sommes. Nous ne manifestons aucun signe de repentir ni de désir d'être transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Notre prière ne peut pas alors être agréable à Dieu. Les versets 23-24 nous parlent de celui qui lit et qui oublie aussitôt ce qu'il ou elle a lu et ne le met donc pas en pratique. L'exemple donné est très parlant. Voir son visage dans un miroir et oublier comment il est dès qu'on a tourné le dos. Alors, dans le commentaire biblique contemporain, j'ai trouvé cette explication intéressante. Au temps de la rédaction de cette lettre, le miroir était en métal bien poli. L'image qu'il reflétait n'était pas aussi claire et précise que l'image que nos miroirs reflètent aujourd'hui. Et en plus, le miroir ne donne que des images en surface, jamais en trois dimensions. C'est pour dire que lire l'Écriture d'une manière superficielle ne permet pas de saisir ce que Dieu veut réellement dire, ni de mettre en pratique sa volonté. C'était une très bonne prédication, disons-nous souvent après le culte. Mais parfois, nous en oublions le contenu, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu un effort de réflexion ni de compréhension aux profondeurs de notre part. Nous devons fournir un effort pour comprendre la parole, puis nous devons nous l'approprier, l'intégrer dans notre vie. Fin du commentaire. En effet, lire la parole de Dieu nous demande un effort, celui de la comprendre pour savoir comment la mettre en pratique. Et si nous faisons attention à ce que nous dit Jacques, cette mise en pratique, c'est cela qui nous rend heureux dans notre activité. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui mettent de côté certains textes parce qu'ils ne leur plaisent pas ou parce que ce n'est pas la réponse qu'ils attendaient, qu'ils exigeaient peut-être de la part de Dieu. La lecture du verset 25 nous oblige au contraire à faire tout l'inverse. Je vous relis ce verset. Oups. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Parce que, voilà, c'est ce qui est dit, c'est cela qui nous rend heureux. Le livre de Jonas nous montre comment le fait de refuser de faire ce que Dieu nous demande peut nous procurer comme problème. Souvenez-vous, Dieu lui demande d'aller à Ninive pour avertir le peuple. Jonas, chapitre 1, verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et que fait Jonas ? Il part du côté opposé. Il a ses bonnes raisons pour agir ainsi. Et nous aussi, nous pensons avoir nos bonnes raisons pour ne pas écouter ou ne pas entendre. Mais cela va le mener dans le ventre du gros poisson. Dans le ventre de quel poisson sommes-nous parfois entraînés parce que nous ne voulons pas mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous demande ? Je vous laisse réfléchir vous-même à des situations où tout aurait pu se passer bien mieux dans votre vie si vous aviez écouté et mis en pratique ce que Dieu vous demandait. Alors j'essayais d'imaginer des situations. Donc par exemple, si on lit Malachie, chapitre 2, le verset 15, on lit « Veillez sur votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse ». Oui, on pourrait imaginez les souffrances évitées pour beaucoup de personnes si l'engagement de fidélité n'était pas trahi par un homme ou par une femme. C'est clair que dans ce cas, on se détourne délibérément de la parole de Dieu pour suivre notre propre envie. Mais ça, c'est toujours un gros cas. On cherche toujours les grosses situations. Mais il y a des cas qui peuvent paraître moins graves, en tout cas humainement parlant, où l'on fait fi de ce que la Bible nous demande. Par exemple, j'en ai déjà parlé dans un autre message, il y a les mamans au Cameroun qui promettent à leurs enfants de leur offrir un bonbon quand elles reviendront du marché. Mais elles savent très bien qu'elles ne rapporteront pas de bonbons. Et les enfants, à force, ils savent très bien que maman ne rapportera pas de bonbons. Donc, ils comprennent que ben, pour se sortir d'une situation, c'est bien de mentir. Et ces enfants vivent dans le mensonge parce que c'est normal. Mais Dieu, lui, nous demande de parler dans la vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà une circonstance qui, pour ces mamans, ne paraît pas importante, mais qui a de lourdes conséquences, et aussi spirituellement. Alors finalement, j'aimerais vous encourager, nous encourager, à faire de notre lecture de la parole de Dieu un festin remarquable. Ne la lisons pas par habitude ou par devoir, mais parce que c'est tellement plus fort que notre propre volonté, parce que nous ne pouvons pas nous en passer. Ne la consommons pas comme des gloutons qui veulent ajouter une couche de nourriture après l'autre sans prendre le temps de l'assimiler. Mais surtout, laissons-la agir et porter du fruit en nous. Acceptons-la dans toute sa diversité, dans des dimensions et des exhortations qui ne nous conviennent pas toujours. Que cette parole puisse apporter la vie en nous, une vie pleine et entière à la gloire de Dieu, et non une vie que nous choisissons nous-mêmes selon nos envies. Parce que c'est ainsi que nous serons heureux. Mettons les uns et les autres en pratique cette exhortation du psaume 119 au verset 16. « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Amen. Je vous invite à prier.